Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Je suis Marin Maufray et ce soir je suis accompagné de Félix Tédelin en régie.
Bonsoir.
Ce soir, cette émission est un petit peu particulière en ce 2 avril 2025 parce que l'invité que nous devions avoir a décommandé et ce sont des choses qui arrivent tout à fait. Et quand c'est le cas, on en profite pour faire découvrir nos fleurs. Les fleurs, dans le wiki de l'arbre des imaginaires qui est associé à la forêt des possibles, c'est tout un tas d'œuvres d'art qui nous inspirent et qui visent à pouvoir questionner nos imaginaires dominants et pourquoi pas en faire pousser des nouveaux. En faire pousser, c'est de saison, en ce début de printemps. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de pouvoir continuer le cheminement qui avait été proposé il y a quelques semaines dans le début de livre qui s'appelle Prémisse et que je suis en train d'écrire en ce moment, qui est un travail assez conséquent et que Félix en régie a eu l'occasion de pouvoir lire dans ses toutes premières ébauches. Et donc ça ne sera pas une émission qui visera à donner la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et sociale de Marseille ce soir, mais une émission qui vise à questionner nos imaginaires et en faire pousser des nouveaux. Donc, et pour celles et ceux qui se souviennent ou qui ont pu réécouter la première émission au sujet de Prémisse, il s'agissait d'un mystérieux personnage qui s'appelle Pierre et dont la narratrice Gabrielle trouvait des lettres dans la malle d'un hôtel. Et puis à mesure qu'elle découvrait et lisait ces lettres, elle était happée par le cri d'amour de cette personne qui l'invitait à cheminer, à la fois pour la rechercher, qui est donc cette personne qu'est Pierre, mais aussi pour se chercher elle-même, elle, Gabrielle. Elle qui, finalement, en lisant les lettres d'un personnage perdu, disparu du moins, finit peut-être par se trouver elle-même. Et donc cette suite, c'est le début de la partie 1. Et la partie 1, elle s'appelle La quête de l'Olympe. Et son chapitre 4, qui s'appelle « Tirer à quatre épingles ». Et donc voici le début de la lecture. Dans les jours qui suivirent ma découverte des lettres, j'avais entrepris leur lecture approfondie dans un petit café que j'appréciais particulièrement sur le Vieux-Port, à la Caravelle. J'étalais les carnets sur de vieilles tables rayées qui charmaient mon sentiment de revivre par correspondance certaines époques révolues. On aurait dit que le lieu existait depuis l'âge d'or industriel de la ville. Peut-être Pierre avait-il écrit ici même. Peut-être le lieu avait-il vu Albert Londres en partance pour le Levant et la gouaille rieuse de Fernandel, à défaut d'y avoir croisé Edmond Dantès parti venger sa jeunesse trop vite dérobée. Sa petite terrasse nichée sur le port offrait une vue imprenable sur la bonne mer, bienfaitrice des marins. Une lumière dorée d'une beauté indescriptible, dont seuls ceux qui l'avaient déjà vue pouvaient s'imaginer la nuance de chaque rayon, éclatait de mille éclats sur les façades de la cité antique. Ce bar de jazz aimait cultiver son ambiance de loup de mer, avec ses lampes à huile et ses vieilles maquettes de bateaux sorties d'un autre temps, accrochées au plafond peint d'une couleur bleu nuit. J'adorais ce genre de lieu intemporel. Je regardais le piano et le vieux parquet de chêne qui meublait la pièce et pouvait aisément imaginer l'odeur de cigares et de rhum qui avait dû endiabler bien des soirées. Peut-être les frères Guérini se donnaient-ils jadis rendez-vous ici pour mener des affaires avec des armateurs, riches commerçants et administrateurs de la ville ou autres malfrats italo-corses, à l'époque où l'ouverture du port de la Joliette et des voies maritimes vers l'Indochine avait fait de Marseille une place centrale du trafic de l'opium. À mesure que je regardais les goélands volter entre les mâts, le chant des sirènes m'appelait ailleurs. Leonardo, notre maestro, venait de nous annoncer une nouvelle qui me comblait de joie. D'ici quelques semaines, nous partirions en bateau à voile à travers les côtes méditerranéennes. Au départ de Marseille, nous irions à Gênes, Rome, Naples, Palerme, Alger, Carthage, Tripoli, Alexandrie et enfin Jérusalem. Plus jeune, je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, me retrouver embarqué pour une série de concerts, pour jouer dans des cabarets, vieilles caves, salles de spectacles et ambassades, notre répertoire classique mais également de jazz, de blues et de salsa. Je m'étais toujours laissé guider par le vent, les opportunités et les rencontres, sans objectif prémédité. J'avais cette chance de mener une vie sans boussole qui m'amenait de bon port en nouvelle contrée. Nous accompagnions souvent des troupes de danseurs en représentation. Surtout, nous comptions dans notre compagnie un chanteur tout à fait étonnant. Il s'appelait Alessandro, mais tout le monde l'appelait Al. Né à New York de parents d'origine italienne, il ressemblait à ces chanteurs de dancing hall qui faisaient fureur dans le XXe siècle triomphant. Avec ses cheveux gominés en arrière, ses chaussures vernies et ses costumes impeccables, il était notre Frank Sinatra à nous. Quand il arrivait dans nos lieux de représentation, il ne payait pas de mine. Avec sa petite taille et son teint grisâtre, il était impossible de préfigurer son charisme exceptionnel une fois sur scène. Avachi au comptoir, un petit verre de martini en main, il ressemblait à ces vieux beaux ayant trop forcé sur les plaisirs de la vie. Notre contrebassiste débutait la représentation face à une chaise vide, laissant notre public sidéré par notre apparent manque de professionnalisme. Mais ce n'était que mise en scène et art de la surprise. Depuis le comptoir, Al s'emparait alors du micro, prenait la lumière et commençait son numéro. À peine chanté ses premiers accords, un silence à en entendre les mouches voler gagnait la salle suspendue à ses lèvres. Les regards interrogateurs cherchaient d'où cette voix grave et cristalline sortait. Toute sa puissance et sa présence se dégageaient alors de sa petite carrure. Le spectacle pouvait débuter pour dérouler son impressionnant répertoire. Vous ne pouviez vous figurer le triomphe et les innombrables rappels de ces soirées où défilaient les heures de la nuit. Malgré son âge, Al fascinait et attirait à lui les amoureuses d'un soir. Ainsi pouvait continuer son existence de vieux beau qui jouit encore et toujours des plaisirs de la vie. Que je l'aimais, cette ambiance de comptoir, que l'on ne retrouve finalement que dans les ports, où la pègre et les affaires se côtoient dans une drôle de combinaison des ors et de la misère du monde. Le jazz n'était-il pas né de cette confrontation entre l'opulence des uns et l'oppression des autres ? Pierre avait-il pris le goût et le temps de pouvoir savourer ces moments suspendus, où l'existence n'a de sens que dans la folie du rythme partagé ? Je recherchais à remonter le fil de son histoire pour comprendre ce qui avait bien pu l'amener jusqu'à un tel point de rupture. Pourquoi n'avait-il pas dansé sa chance d'être né du côté de ceux qui, d'apparence, ont tout ? Un détail attira mon attention. De très fines et petites étoiles étaient discrètement gravées à la pointe d'un couteau sur la pochette rouge. C'est un symbole simple, mais je sentais chargé d'une signification ancienne. Je passais délicatement mes doigts dessus. Les gravures semblaient plus récentes que le reste du contenu. Surtout, je n'y avais jamais porté attention jusque-là. Quelqu'un aurait-il voulu marquer ce carnet d'un sceau invisible à qui ne savait pas regarder. D'étoiles, Pierre semblait en être une dans sa jeunesse. Observez-moi de loin, vous ne remarquerez rien. Si vous ne cherchez pas à me connaître, il est fort probable que vous me classiez comme un de ces garçons à la jeunesse dorée qui mène une vie facile, une vie rêvée, écrivait-il. Les premières entrevues avec lui étaient même susceptibles de laisser un petit goût amer à certaines de ses interlocuteurs. Dans un bon jour, son apparence polie et réservée de gendre idéal pouvait réveiller la jalousie si française que l'on éprouve envers ceux pour qui tout semble aisé. Dans un mauvais jour, en revanche, il pouvait laisser poindre une once de la personnalité cassante et hautaine qui caractérise les jeunes premiers un peu trop sûrs de leur valeur. Beau garçon, élancé, esprit vif, que pouvait-il lui manquer pour être comblé et faire de sa vie un feu d'artifice ? Aîné d'une famille bourgeoise, son père Louis était un homme droit et ferme. Originaire d'une famille d'aristocrates catholiques et conservateurs, Celui-ci avait été éduqué à la dure par des parents ayant leurs entrées dans la bonne société parisienne dont il avait gardé d'insondables blessures. De lui, Pierre avait reçu une éducation sans passe-droit ni réjouissance d'une vie facile. Bien sûr, il eut une enfance relativement protégée, n'ayant matériellement manqué de rien. Les vacances de Pierre avaient été marquées par les sports d'hiver, les séjours en Bretagne dans de grandes propriétés familiales typiques de la bourgeoisie parisienne et les voyages à l'étranger. Pourtant, en pater familias, son père lui avait inculqué des valeurs du mérite et du respect. Dans la vie, il fallait travailler dur pour se faire sa place. Rien n'était acquis ni donné d'avance. Sa mère, Marie, venait d'une famille d'intellectuels catholiques de gauche, ingénieur polytechnicien de père en fils. Dans ses jeunes années, Pierre s'était mis en tête de prendre la relève et le devenir de la prochaine tête de gondole familiale. Était-ce un choix conscient ou l'appropriation de la projection que faisait sur lui son milieu attendri par son agilité intellectuelle précoce ? Sa mère était d'un style un peu différent, moins cartésien, plus sentimental. Éprise de justice, elle se donnait sans compter dans ce en quoi elle croyait, quoique parfois naïve et émotive dans ses combats. Celle-ci lui avait transmis les valeurs de l'honnêteté, de l'engagement, mais aussi ses états d'âme, qui la rendaient aussi touchante que désespérante. Pierre grandit dans une culture humaniste, libérale et d'un catholicisme incertain de parents rendus agnostiques par leur époque. Dans un monde consumériste où chutaient les idoles, il se questionnait sur l'existence de Dieu en revoyant dos à dos la substantifique moelle des enseignements du Christ et les balivernes de Bénitier. Le credo familial était celui du juste milieu, de l'art de l'équilibre. Belle ambition qui comportait néanmoins une faille. Pour viser le juste milieu, encore fallait-il qualifier les bordures de l'échiquier et justifier les raisons pour lesquelles telle position était considérée comme modérée en comparaison à celle qui était extrême. Il semblait parfois à Pierre que la poursuite du juste milieu était pour ses parents le fruit d'un héritage peu questionné plutôt qu'une authentique recherche. Si ce précepte allait de soi, la mise à jour de ce qu'il impliquait et les questionnements fondamentaux que cela engendrait étaient accueillis avec rigidité. Se questionner sur l'ordre établi, pourquoi pas, mais le remettre en question, certainement pas. À la maison, l'atmosphère intellectuelle n'était ni fondamentalement conservatrice, ni franchement progressiste. Elle était plutôt classique et marquée par la forte transmission d'une certaine idée de la responsabilité. Jamais la pression familiale ne s'était imposée sur le fait de lire tel auteur, de savoir jouer de tel instrument, ou d'intégrer telle école ou tel corps de métier. Non. Les projections parentales dans lesquelles Pierre grandit n'étaient pas chiffrées, quantifiables ou évaluables à la froideur d'un parcours académique professionnel, un CV ou un carnet. À lui de se battre pour ce en quoi il voulait et d'assumer ses responsabilités. Insidieusement, le niveau d'attente n'en était pas moindre. L'ambition était simplement plus subtile, infiniment plus exigeante. Il s'agissait de devenir un homme juste et valeureux. Pour Pierre, cette injonction ressemblait à un casse-tête insoluble. Quelle signification donner à ce satané sens de la responsabilité et du devoir ? Être responsable, est-ce que c'est prendre soin de soi, des siens, de la société ? Dans quel ordre est-ce qu'il faut considérer ces questions ? Pouvait-il se poser ? « Mais il faut chercher le juste milieu, enfin !» lui répondait son père. « Le juste milieu entre quoi ? Qu'est-ce qui est juste ? Ça me rend fou. Une fois qu'on a dit ça, que faire si la défense des nôtres va à l'encontre de la défense des intérêts collectifs ? Et que faire si le sens de la société nous invite à faire des efforts individuels ? Hein ? Qui tranche ? Et comment on tranche ? Tout est tellement complexe et nuancé. Tu m'énerves avec tes questions et ta radicalité ? Lui répondait son père. Radical, ça signifie ce qui tient à l'essence et va à la racine. Alors Pierre assumait d'aller à la racine des choses et des problèmes pour trouver des réponses et des solutions justes. Son père ne voyait pas les choses de cet œil. Les deux ne s'entendaient pas sur ce que la responsabilité implique. Son père l'appliquait dans son rapport à sa famille et son travail, alors que Pierre dans son rapport au monde et à la place qu'il voulait y prendre. Dans une société sans dessus-dessous, leurs divergences de vues étaient parfois frontales. De grands malentendus ont germé dans le sillon de leurs questions sans réponse. Moi, qui vient d'un milieu plus modeste, j'avoue avoir été un peu dépassé par la pression que Pierre semblait se mettre avec toutes ces questions. Mes parents m'ont évidemment appris le sens du travail, de l'honneur et de la solidarité, mais concernant celui de se sentir responsable pour le tout, je trouvais que Pierre en faisait beaucoup trop. Pour qui se prend-on quand on réfléchit à ça à l'âge de 20 ans alors qu'on a à peine quitté le nid ? Ce genre de questionnement est sans doute l'apanage de ceux qui se réclament de l'élite. Ne sachant pas toujours comment se positionner vis-à-vis de privilèges dont ils ont bien conscience de ne pas toujours les mériter, tout en ayant le loisir de bien pouvoir en profiter, ils se sentent obligés de justifier leur prédominance et leur légitimité, quitte à défendre des positions tout à fait contradictoires pour mieux les renforcer en prétendant les remettre en question. Mais puis-je pour autant le leur reprocher ? Je me mets à la place d'une personne née dans ces conditions et n'ayant rien demandé. Et je n'ai aucune idée de la façon dont je réagirais. Existe-t-il beaucoup d'humains sains d'esprit qui puissent sérieusement aller à l'encontre de l'ensemble de leurs intérêts de manière sacrificielle et sans en tirer la moindre satisfaction ? Grosse question et bon courage pour y répondre. Peut-être était-ce le fruit de son éducation ou l'expression de son tempérament propre, mais toujours est-il que Pierre s'était attelé avec travail et détermination à la recherche d'une certaine forme de perfection. La jeunesse est une feuille blanche, une promesse. On peut décider de ne pas s'en saisir. On peut la gribouiller, la raturer, en finir, la déchirer ou la jeter. On peut en faire un avion en papier ou s'en aller voir du pays, mais moi, je veux m'en emparer et faire un origami génial de celle-ci. Faire de ma vie une œuvre, lui donner un sens au service des autres. Cela ne se fera certainement pas en un claquement de doigts, mais je m'appuierai sur ma force de travail et mon inébranlable volonté pour domestiquer ma vie et en faire un dessin grandiose. Je rêve de l'élégance des princes et de la force tranquille des grands seigneurs, relate Pierre dans ses souvenirs. Il avait ce goût du romanesque et voulait, non sans prétention, laisser son empreinte dans l'histoire. Pour parvenir à ses fins, il fallait se saisir de tout ce que la vie a à offrir et travailler avec patience à l'avènement de la grande œuvre. Même si les sacrifices devaient être importants, le jeu en vaudrait la chandelle. La vie était une fuite en avant que Pierre ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Tel un peintre pointilliste, chaque minute, chaque heure passée à travailler était un infini, un insignifiant petit point sur une toile qui, à force de persévérance, finirait par prendre tout son sens. Immensément exigeant avec lui-même, Pierre ne manquait pas d'ambition. Progresser, apprendre, échouer, recommencer, réussir. À 22 ans, le fruit de son travail commençait à prendre forme. La tour de Babel était en construction. Pour se donner pleinement, il devait exceller partout. Formation d'élite, réflexion aiguisée, engagement associatif, spiritualité affirmée, culture du beau, discipline physique et amitié profonde. L'objectif n'était pas d'être le meilleur en un domaine, mais de devenir un chef d'orchestre dont la gamme était complète. Alors, après avoir longuement travaillé ses gammes, il pourrait faire parler sa partition unique qu'il serait le seul à savoir jouer et la donner au monde. Pierre avait certes une assez haute estime de lui-même, mais il estimait n'avoir jamais rien volé à personne. S'être toujours battu, avec courage, pour obtenir ce qu'il souhaitait. Il avait du mal avec la critique, car il estimait déjà faire de son mieux. Intransigeant avec lui-même, il ne se pardonnait pas ses erreurs et avait du mal à se montrer tolérant vis-à-vis de la négligence des autres. Question de réciprocité. Bien que né dans des conditions fort confortables, il détestait par-dessus tout qu'on puisse penser qu'il était un fils à papa. Ça, non. Tout ce qu'il avait obtenu, il avait l'intime conviction de s'être pris seul pour l'avoir. Ce qui me fait sourire, moi, qui ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il ne semblerait pourtant pas que Pierre ait été un prototype creux, une machine ruisselante et caricaturale, ce genre de jeune loup au regard carnassier qui camoufle le vide de la pensée ou dont les dents rayent le parquet dès qu'ils ouvrent la bouche. Derrière les apparences brillantes se cachait un homme profond et complexe, tourmenté, Son côté donneur de leçons et le petit complexe de supériorité que l'acharnement au travail lui donnait l'impression d'avoir le droit de cultiver était compensé par sa sincérité désarmante et un manque de confiance en soi qui le rendait attendrissant à ceux avec qui il avait fendu l'armure. En réalité, il était tiraillé par la part incompressible de questions sans réponse qui le laissait plus déchiré qu'admiratif de la beauté d'un univers inexplicable. Il y a des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre. Peut-être que le monde environnant le tracassait, car il était lui-même tourmenté de l'intérieur. Il avait régulièrement besoin de faire ce ménage intérieur pour trouver ses réponses aux questions qui le travaillaient, depuis toujours, et se recentrer sur les essentiels. Sa vocation était de faire de la politique. Un soir, en rentrant d'une longue randonnée sur la côte escarpée de Bretagne qu'il avait passée, en pleine méditation à humer l'écume de l'océan, il écrivit. Depuis tout petit déjà, je me sens appelé par une sorte d'idéal. Je ne saurais vous dire lequel c'est. Je ne saurais le décrire. Je pense qu'il y a quelque chose d'immatériel et d'intemporel. À défaut de savoir la raison pour laquelle je suis sur cette terre, et non quelqu'un d'autre à ma place, mais de toute façon une réponse rationnelle à cette question existe-t-elle de toute façon ? La question du sens de ma vie me travaille. Quelle est donc cette chose après laquelle je cours depuis tant d'années ? Si l'on raisonne de manière purement factuelle, matérielle, humaine, rien ne se dégage. J'ai tour à tour voulu être jardinier, ingénieur, chef d'entreprise, homme politique. La logique parmi ces choix est absente. Et pourtant, la même flamme continue de brûler en moi. Je pense que j'ai toujours eu cette aspiration la plus profonde. Aujourd'hui, je me pose des questions sur ce que je souhaite faire de mon avenir. J'ai toujours voulu servir. Qu'y a-t-il de plus noble que de servir la chose publique ? C'est mon inspiration intime. J'ai certes de l'ambition, mais c'est avant tout l'ambition de bien faire. Comment améliorer la vie des gens ? Depuis tout petit, j'ai un sentiment diffus d'avoir quelque chose à apporter, une sorte de mission à mener. Préparer l'après. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut bien dire, ni d'où ça vient. Parfois même, ça me terrifie d'y penser, parce que je ne peux pas y échapper. Ça veut dire quoi, préparer l'après ? Ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à me confier de cela aux autres. Ils me prendraient pour un fou et ils auraient bien raison. Pourtant, si je me questionne, c'est ce qui travaille le tréfonds de mes tripes. Chaque jour, je me lève avec cette aspiration si globale, si vague et si absolue, sans savoir de quoi il s'agit réellement. Je la poursuis sans même savoir pourquoi, car je la ressens, là, quelque part, depuis toujours. C'est comme ça. De toute façon, je ne pourrais pas imaginer vivre autrement. Je pense que je cours après quelque chose qui ne se percevra pas matériellement, que l'on ne pourra pas identifier ni quantitativement ni qualitativement. Je pense qu'il y a un aspect assez spirituel et impalpable dans cette démarche de vie. Est-ce une force supérieure et divine qui pilote ma vie, ou est-ce que c'est moi-même qui me suis persuadé de cela depuis ma plus tendre enfance ? Peut-être un peu des deux, mais je ne sais plus les démêler. Ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, c'est de ce feu que je brûle. Alors, je me donne grand-peine à chercher, à m'instruire, à voyager, à travailler, à m'entretenir avec celles et ceux qui tracent une voie pour m'engager à mon tour. Chaque minute que je passe, chaque projet que je mène, je cherche à servir ce projet, cette vision. Il n'y a pas une chose que j'entreprenne sans que je n'aie longuement réfléchi à la façon dont elle pourrait me rapprocher du Graal. Ainsi, je souhaite faire de cette vie un modèle de combativité et de vertu. J'ai conscience que c'est un horizon inatteignable. Mais l'idée à retenir est que je souhaite que chacune des choses que je fais, je puisse me soustraire à la temporalité et à la matérialité de la vie qui m'entoure et m'oppresse. J'essaie de prendre les décisions à plus long terme. J'essaie de poser ce que je fais, malgré mes 18 ans, sur cela à un regard de sage, pour ensuite faire de bons choix. Je suscite parfois l'incompréhension autour de moi, mais je me dis tant pis. Un jour, ils comprendront. Je me prépare au jour où tout prendra sens. Je ne sais pas quand ça sera, ni quelle forme cela prendra. Je sais juste que ce jour viendra. C'est plus qu'une intuition, s'est inscrit en moi. Ce jour-là, tout sera prêt. Les milliers d'heures de travail, les nuits entières à espérer, et les innombrables fourmillements s'assembleront dans une seule et même symphonie. La finalité me dépasse complètement. Pour l'instant, je ne l'aperçois que de manière confuse. Alors je me laisse guider. La fin étant imperceptible aux hommes, c'est sur le chemin que j'aurais emporté et emprunté que je serais jugé par le monde matériel de ceci, car la fin, c'est Dieu. Servir mon intérêt, c'est d'abord servir celui des autres. C'est la raison sans doute pour laquelle chaque jour je vis. Écrivit un Pierre très spirituel dans ses carnets à 18 ans. Mais moi, Gabriel, qu'en dirait ma famille athée ? Mon grand-père était un hussard noir de la République, fervent défenseur de la laïcité. De mon côté, je ne crois ni en Dieu, ni dans le destin, ni dans la vie après la mort. Je crois que c'est nous qui avons le pouvoir de donner le sens que nous voulons à notre vie. Quand papa est parti, il était dans la fleur de l'âge et moi au printemps de mes jours. Il n'y avait aucun sens à sa disparition, qui était étouffante de journée sans lendemain. Aucun Dieu bien intentionné n'aurait souhaité cela à quiconque de ses enfants. Ce n'est pas vers lui que je me suis tourné pour trouver du réconfort et des réponses à mes questions, bien silencieux que je puisse le trouver dans ses conseils. Le sens que ma vie a pris, c'est moi qui lui ai donné. Dans les premiers temps, il me fallait avant tout survivre et surmonter le gouffre et la fadeur. Puis je me suis patiemment reconstruite en faisant le choix de continuer à vivre pour trouver le goût et la sensation et les saveurs. Alors, la transcendance de Pierre me paraît des plus absconses. Mais peut-être me trouverait-il un peu fade en retour. Au fond, je n'en sais rien. Je n'ai pas été touché par la grâce divine, mais je laisse une petite porte ouverte au fait que certaines dimensions du monde puissent m'échapper. Je refermais les carnets de Pierre et m'adossais à ma chaise. Le bruit des vagues me parvint à travers le brouhaha du vieux port. Je portais ma tasse à mes lèvres, mais le thé était déjà froid. Une voix s'éleva derrière moi. Un marin discutait avec un vieil homme sur la pêche du matin. Cela me faisait du bien que le monde tangible se rappelle à moi à côté des questions vertigineuses de Pierre qui tournaient dans ma tête. Depuis la période de la grande contraction et les dures années qui s'en étaient suivies, les ports avaient repris leurs activités ancestrales. Par nécessité, la marine marchande avait remplacé la marine de plaisance et la place aux huiles avait repris son rôle de grouillante place du marché. Dans les ruelles de Marseille, on sentait encore la trace de cette grande transition. Quelques panneaux solaires couvraient les toits qui avaient tous été repeints en blanc pour se protéger de la chaleur. Les étalages des marchés disposaient des produits cultivés à quelques kilomètres à peine. Le sud avait la chance d'être baigné de soleil, mais l'eau manquait. Alors les choix étaient limités. Les pharmacies avaient de récurrents problèmes de rupture de stock des médicaments produits à base de dérivés de pétrole. Un marché noir s'est organisé dans le port. Ce n'était pas qu'il n'y avait plus de pétrole. Mer et océan continuaient d'être sillonnés avec parcimonie par de gros cargos de marchandises. Seulement les pénuries s'étaient répétées et avaient heurté de plein fouet une Europe en mal de matières premières. Après plusieurs années de disette et de crise sociale, nos sociétés s'étaient réadaptées et avaient redécouvert la force du vent pour se mouvoir et produire de l'énergie. À la radio du bar de la Caravelle, une voix annonçait que la dernière cargaison de pétrole brut venait d'accoster au Havre. « Un peu de répit, disait le journaliste, mais personne ici ne semblait écouter. » Paradoxalement, dans une période où les budgets de l'État avaient fondu comme neige au soleil et où la culture avait été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité, nous étions plébiscités par le public en demande de réenchantement. Avec l'orchestre, nos sonorités, nos couleurs et nos senteurs, apportait l'hymne des contrées joyeuses et offrait aux âmes à quai la promesse de voyager sans prendre le large. Cette nouvelle tournée dans le bassin méditerranéen s'inscrivait dans une forme de diplomatie entre les rives où s'échangeaient les arts et les savoirs, autant que les biens et les richesses. Michaela, ma meilleure amie et confidente, pianiste de notre orchestre, me sortit de mes rêveries. Un soir, après une représentation, elle m'avait partagé son entonnement, du temps que j'accordais à l'approfondissement des lettres de notre mystérieux voyageur. « Comment ça va, Gabriel ?» m'avait-elle dit. « Je te trouve un peu ailleurs ces derniers temps. Tu joues ton instrument avec moins d'intensité. Je le sens. Tu passes toujours tes nuits à lire les lettres de ce type qui a disparu. Tu sais ce que ça donne, les gens qui cherchent trop la vérité ? Ils finissent par se perdre même. C'est difficile à expliquer, lui répondis-je. Ces questions me touchent, mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens un mélange de curiosité de partir à la chasse au trésor et d'urgence de percer son mystère. Un silence s'installa. Et si ce n'était pas celui que tu crois ? Me lança Michaela, son regard planté dans le mien. Je restais figé, troublé par sa remarque. Ce que je ne lui avais pas encore dit, c'est qu'il portait le même prénom que mon père. Avec du recul, il était évident que partir à la quête de ce pierre symbolique qui m'avait mystérieusement laissé des lettres était une sorte de quête de mon propre père qui, lui, ne m'avait pas laissé d'explication. Il n'avait pas eu la même vie, mais mon père aussi était plein de questions irrésolues qui se partageaient peu, mais dont je savais qu'elle le travaillait intimement. Je ne sais pas exactement si les questions de Pierre étaient les mêmes que les siennes, mais du moins, il me permettait de mieux comprendre les soubresauts qui traversent parfois une âme. Et ce que je vais vous proposer, c'est une petite mélodie que je trouve absolument merveilleuse pour digérer cette lecture et qui s'appelle « La robe et l'échelle » de Francis Cabrel.
T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après. Y'a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue. Par le jeu des transparences, ses fruits dans les plis du tissu qui balance. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux, j'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé. Un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. S'il savait le mal que j'ai eu à descendre. D'ailleurs en suis-je descendu de tous ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis des tissus qui balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. Tout s'envole en ombre légère, tout sauf ce goût de fièvre et de miel. Cet
envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arbre et les chèvres. À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel. D'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. Et voilà que du sol nous sommes, nous passons nos vies de mortels à chercher ces portes qui donnent vers le ciel.
Vous êtes de retour sur Radio Galère et nous sommes toujours en direct de 19h à un peu avant 20h dans l'émission de La Forêt des Possibles qui ce soir proposait un format un peu particulier puisque nous n'avions pas d'invité et que je vous proposais la lecture d'un livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Prémices. Et c'était donc le chapitre 4. Et ce que je vous propose, c'est de juste digérer cette lecture-là. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de suivre la suite, eh bien, il y aura peut-être d'autres épisodes ou sinon ça sera à retrouver en lecture. Et ce soir, 2 avril 2025, je lance un appel. Si des éditeurs et des éditrices nous écoutent, eh bien, vous pouvez très bien nous contacter. Voilà. Je vous remercie pour cette soirée. C'était Marin Moffret en plateau avec Félix Stédelin en régie. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.